Chers amis de Radio Salve Regina, bonjour, Lucille avec vous pour une autre émission de Storia e Storie. Alors ce que nous voyons en ce moment, c'est l'histoire de l'Aiglon, le fils de Napoléon, celui qu'on a pu appeler aussi le rêve brisé de Napoléon. La jeune femme qui a travaillé sur ce sujet, qui a écrit un livre, s'appelle Laetitia de Witt. Et elle est une petite parente de la famille Bonaparte. Donc elle a quand même eu, elle aussi, des sources de première main. Et donc nous sommes en 1812, l'Empire commence à vaciller. L'Empire commence à vaciller parce que Napoléon est allé s'enliser à Moscou. Donc, il a sous-estimé l'hiver. S'il y avait eu des services météo, peut-être ça ne serait pas arrivé, mais de toute façon, on savait très bien qu'il faisait très froid en Russie, puisqu'il y avait plusieurs voyageurs français qui y étaient allés. Je vous ai cité Diderot, Voltaire est allé en Prusse, Diderot chez la grande Catherine en Russie, donc tout le monde savait qu'il faisait très froid, mais Napoléon a mal géré l'information. Donc nous sommes le 9 mai 1812. Et ce jour-là, la vie douillette de l'Aiglon, de ce petit roi de Rome, si choyé par sa gouvernante et les gens qui l'entouraient, cette vie douillette a bien failli être bouleversée. En effet, ce 9 mai 1812, Napoléon et Marie-Louise quittent Saint-Cloud pour Dresde. Le conflit avec la Russie est imminent, l'impératrice est du voyage, pour, dit-on, revoir sa famille et visiter les pays alliés. Il s'agit avant tout d'affirmer et d'exposer à la Russie la puissance de l'empereur des Français entouré de ses alliés, enfin ceux qui sont toujours pour l'instant ses alliés. De son côté, le petit roi de Rome ne s'éloigne que jusqu'à Meudon, où il passe l'été avant de regagner Saint-Cloud pour les Tuileries. Alors Meudon était un endroit où on passait l'été parce qu'on pensait que l'air y était meilleur. C'est un domaine que Louis XIV a racheté à un de ses généraux et il l'a échangé contre un autre château. Bon, mais lui aimait Meudon et comment s'appelait-il ? Je pense que c'était le duc de Saint-Aignan qui ne le lui a pas refusé et qui lui a cédé Meudon. Et Meudon était un endroit où l'air était certainement très bon puisque l'enfant, le premier petit dauphin de Marie-Antoinette et de Louis XVI, avait été transporté à Meudon avant de mourir, de tuberculose sans doute lui aussi. Voilà, alors là il va, et pour lui, je veux dire, tout se succède paisiblement. À l'heure où Napoléon et son armée des 20 nations qui sont ses alliés s'apprêtent à franchir le Niémen, donc le fleuve qui fait la frontière avec la Russie, le sevrage est la grande affaire qui divise l'entourage de l'enfant. Ni les premières difficultés rencontrées par son père, ni l'entrée de la grande armée dans Moscou, ni l'incendie de la ville ne troublent son quotidien. Seul un obscur général, un certain Mallet, rompt la routine le 22 octobre en tentant un coup d'État contre le régime. Non pas que le roi de Rome ait été menacé, la tentative se déroule à Paris alors qu'il est à Saint-Cloud. Mais plus grave encore, personne n'a pensé à lui. Personne n'a pensé à lui, personne n'a eu le vieux réflexe dynastique de dire, parce que cet homme a fait croire que Napoléon était mort, je vais y revenir dans un instant, le vieux réflexe dynastique de dire « le roi est mort, vive le roi ». Non, avec la Révolution, le réflexe dynastique est parti. Et Napoléon, à des milliers de kilomètres, comprend que sa famille n'est pas enracinée. Il comprend que son fils, surtout, n'est absolument pas enraciné. Alors le coup est dur. Que faire pour déclencher un élan en faveur du roi de Rome ? Cette interrogation, a des répercussions directes sur la vie du roi de Rome. On va modifier la constitution. Enfin, on débute l'apprentissage de son futur métier de roi, etc. La tentative du général Mallet marque ainsi une importante étape dans sa vie. Revenons à ce qu'on a appelé l'affaire Mallet, la conspiration Mallet. Présenté comme un simple fou par l'historiographie traditionnelle de l'Empire, Claude François Mallet est un personnage habile et ambitieux qui, en 1812, n'est pas sa première conspiration. Il est intéressant de revenir sur son parcours. Commandant de la garde nationale de Dole, il devient en 1792 capitaine de l'armée du Rhin, général de brigade en 1799. Donc 92, hein, et puis la garde nationale, c'était les soldats de la Révolution. Il est, paraît-il, d'origine noble. Bon, dans son nom, je ne vois rien, mais la particule ne fait pas la noblesse, hein, ne l'oublions jamais. D'origine noble, il n'en est pas moins un farouche républicain et s'oppose au coup d'État de Bonaparte. Il s'opposera plus tard à l'instauration de l'Empire. Compromis dans plusieurs scandales, il est finalement destitué en 1807. Amer, il passe à l'action et monte en 1808 un premier complot qui lui valut d'être emprisonné avant d'être interné dans une maison de santé parisienne. C'est de là qu'il lance un nouveau coup d'État. Donc on peut penser que, après avoir échoué plusieurs fois, il se serait calmé. Non, non. Donc il avait certainement déjà un petit problème mental. Son plan, qui reprend le schéma de sa première tentative, est simple. Profiter de l'absence de l'empereur pour annoncer sa mort et faire proclamer par le Sénat un gouvernement provisoire. En cet automne de 1812, l'occasion est, paraît-il, bonne. Enfin, elle lui paraît bonne à lui. Hein. Paris prend peu à peu connaissance des nouvelles de Russie, qui ne sont pas bonnes. Napoléon et son armée sont bien parvenus à Moscou, mais dans quelles conditions? Donc l'éloignement conjugué à la politique de terre brûlée pratiquée par les Russes a décimé cette gigantesque armée mal équipée, mal informée et mal ravitaillée. Là, c'était vraiment la campagne de trop pour Napoléon. Hein. Quand on dit la politique de la terre brûlée, vous savez que les Russes, qui sont des gens courageux, il ne faut pas se fier à ce qui s'est passé ces temps-ci où ils étaient quand même en force grâce à l'Union soviétique. Mais disons que les Russes étaient des gens très courageux et ils ont fait brûler Moscou. C'est-à-dire que même les gens très importants qui avaient des palais, les gens de la noblesse, ont mis le feu eux-mêmes à leur palais pour que les troupes de Napoléon ne puissent pas s'y installer, s'y réchauffer et trouver de la nourriture. C'est exactement ce qu'on trouve dans le livre et dans le film « Guerre et paix ».« Guerre et paix », c'est la résistance, c'est l'histoire par Léon Tolstoï, le grand Tolstoï, c'est l'histoire de cette résistance russe. Hein, et le héros en est le prince André dont toutes les jeunes filles étaient amoureuses en lisant « Guerre et paix ». Alors que Napoléon, lui, oui, l'aiglon a suscité des désirs d'amour et des soupirs d'amour de la part de jeunes filles, mais Napoléon, lui, n'inspirait plus personne. Il commençait à se faire, à être d'âge mûr et à ne plus être, n'avoir plus ce charisme et ce charme qu'il avait étant jeune. Parce que ce profil acéré, hein, et ses yeux terribles, ce regard terrible de Napoléon dans certains portraits, notamment des portraits de jeunesse comme celui de Philippe Otto. Donc Napoléon n'inspirait plus d'amour à personne, mais le prince André a été vraiment un héros extraordinaire, comme le Cid. Hein, voilà. Donc ça, c'est les souvenirs de littérature russe que je vous partage ici en vous conseillant de lire ce livre ou de regarder le film qui est passé dernièrement et qui est magnifique, absolument magnifique. C'est une grande fresque, un peu comme en autant on emporte le vent. Hein. C'est absolument superbe. Donc, il fait croire que Napoléon est mort. Comment faire croire ça? Il dit que l'armée ne pourra pas passer l'hiver dans un Moscou en cendres. Il faut se replier et bien sûr il y a ce qu'on a appelé le général hiver. Donc on est loin des victoires triomphales de Napoléon. Et même si en octobre, quand Mallet fait cette, quand, décide de lancer cette dernière conspiration, l'ampleur du désastre n'est pas encore connue en France, mais l'inquiétude est de mise. Personne ne peut ignorer les bulletins de la Grande Armée. Le temps n'est pas catastrophique, il est retenu, pourrions-nous dire, hein. Mais on comprend que ça va mal, parce que quand il y a la victoire, on l'annonce. Et le 18e bulletin, parvenu à Paris fin septembre, annonce la prétendue victoire de la Moscova, mais il emploie la tournure négative. Le général Malet ne s'y trompe pas et entend profiter de ce climat favorable. Le 18e bulletin, je vais essayer de le retrouver, parce que cette tournure négative pour annoncer une victoire, je voudrais bien savoir ce que c'est pour vous le communiquer la prochaine fois. Voilà, donc Malet va lancer sa conjuration, il passe à l'action dans la nuit du 22 au 23 octobre. Après s'être évadé de la maison de santé où il était et avoir revêtu un uniforme de général, il se rend à la caserne de la garde nationale, rue Popincourt. Introduit rapidement auprès du commandant de la 10e cohorte, le colonel Soulier, il lui fait part des dernières nouvelles, la mort de l'empereur et la proclamation par le Sénat d'un gouvernement provisoire. Ni les soldats ni les officiers ne se montrent surpris. Ils écoutent patiemment la lecture de la fausse réunion du Sénat, donc un faux Senatus consulte. Donc voilà, ils sont là. Et il faut préciser que l'entreprise de Malet expose des textes longuement préparés en prison. Donc il a préparé cette séance qui ne s'est jamais tenue, qui est fausse. Mais lui, il a préparé son texte et il prévoit que l'annonce d'un gouvernement provisoire chargé de préparer une nouvelle constitution soit soumise au peuple. Il promet la paix avec l'étranger, le maintien de la Légion d'honneur, la réconciliation avec le pape, la libération de la presse. Donc sont résumées les principales aspirations des Français. Après la lecture du texte, 5 compagnies suivent Malet à la prison de la Force, où il fait libérer 2 généraux complices, Lahoury et Guital. Ceux-ci sont chargés de neutraliser aussitôt les chefs de la police. Au petit matin, Savary, ministre de l'Intérieur, Pasquier, préfet de police, et Desmarets, chef de la police secrète, sont arrêtés et placés à la prison de la Force. À l'hôtel de ville, la résistance n'est guère plus vaillante. Évidemment, ils avaient... les deux autres, les complices, étaient généraux et Malet n'était que capitaine, mais il avait revêtu un uniforme de général. Donc, au moment où il n'y avait pas encore ni journaux ni photos qui couraient les rues, il est certain qu'il a été cru par ses subordonnés. C'était des gens qui avaient des gardes moins importants que lui et ils ont marché, ils l'ont cru. Hein. À l'hôtel de ville, la résistance n'est guère plus vaillante, nous l'avons dit. À l'annonce des informations de Malet, le préfet du département de la Seine, Frochot, se soucie avant tout de faire préparer la salle la plus prestigieuse de l'hôtel de ville pour la réunion du futur gouvernement provisoire. Hein, on est habitué de tourner la veste. À aucun moment, il ne demande d'explication ou la preuve d'ordre formel. Regardez à quel point ils étaient vraiment complètement inconscients. Donc, il n'a aucune preuve d'ordre formel et une grande partie de la capitale est aux mains des conspirateurs. Sur leur lancée, Lahoury et Guidal devaient procéder à l'arrestation de l'archi-chancelier Cambacérès, notre vieux Cambacérès que nous connaissons depuis le coup d'État du 18 Brumaire, et du ministre de la Guerre, le général Clark. Mais Guidal, en proie à quelques hésitations, s'accorde un moment de flânerie dans les rues de Paris. Quant à Malet, il file pour neutraliser le gouvernement militaire de Paris. Et là, la situation bascule. Le général Hulin, gouverneur de la place de Paris, soupçonne la conspiration. Il connaissait Malet, hein. Il savait de quoi il était capable, et demande à Malet des ordres écrits. Le général panique, sort son pistolet et tire sur Hulin, le blessant grièvement à la gorge. Il est aussitôt arrêté, l'aventure est finie. Entre-temps, Cambacérès, alerté, a déjà pris les premières mesures de sécurité. Il a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. Dans cette affaire, c'est vraiment incontestable. Il a mobilisé sur le champ les détachements de la garde impériale présents à Paris. Il a convoqué le général Clark et Moncey, directeur de la gendarmerie, puis réuni dans la matinée le conseil des ministres afin de décider immédiatement du sort des coupables. Il fut le seul à se soucier du sort de l'impératrice et du petit roi de Rome, comme il l'écrit dans ses mémoires. Mes premiers soins se portèrent vers l'impératrice et le roi de Rome. Il était important de pourvoir à leur sûreté. Il fit envoyer à Saint-Cloud, où ils étaient tous les deux, un détachement de la garde impériale pour assurer leur protection. Plus loin, il insiste, « Je commençais à respirer quand j'appris que le palais de l'impératrice n'avait pas été exposé aux violences des conspirateurs, et surtout après qu'il ait été pris des précautions pour la sûreté et la personne de celle de son fils. » Le jour même, il prit soin de se rendre en personne auprès de Marie-Louise pour la rassurer. Était-ce nécessaire? Qu'avait-elle compris? Pas grand-chose. Elle avait appris la tentative de coup d'État dans la matinée, lorsque tout était rentré dans l'ordre. Mallet et ses acolytes étaient sous les verrous, alors que Savary et Pasquier, qui avaient été enfermés à la prison de la force, avaient réintégré leur poste. Elle s'était tout de même interrogée. En voyant le détachement de la garde s'installer dans la cour de Saint-Cloud, là, elle s'est dit, bon, on met un détachement supplémentaire, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà, alors, le général Clark lui relate les faits. Un événement dont Votre Majesté ne doit absolument pas s'alarmer a eu lieu ce matin. Les généraux Mallet et Lahorie ont trompé les détachements d'une cohorte de gardes nationaux et à leur tête, munis d'une fausse proclamation du Sénat, ils ont aussitôt arrêté le ministre de la police et blessé le général Hulin. Mais ils ont été arrêtés. L'affaire s'est terminée là. On ne lui dit rien à Marie-Louise de la facilité avec laquelle ils avaient persuadé les troupes que l'empereur était mort. Rien non plus de la soumission passive des chefs de la police, sans même parler de l'autorité municipale. Le mot d'ordre était clair, ne pas effrayer l'impératrice. Liquider l'affaire au plus vite pour mieux la présenter comme une échauffourée de brigands. La méthode se révéla efficace. Marie-Louise ne fut en effet aucunement ébranlée. La reine Hortense est venue la retrouver à l'annonce de la nouvelle. Elle mentionna tout juste cette affaire de brigands. La fille de Joséphine précisa qu'elle n'avait pas du tout peur pour son fils. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qui s'est passé. Elle n'a pas perçu l'ampleur, mais que pouvait-elle percevoir? Elle croyait à ce que lui disaient Napoléon et ses proches. Et voilà, elle a été maintenue dans l'ignorance la plus totale de tout, même de la dureté de la campagne de Russie. Et elle a eu quand même des gens qui se sont occupés de tout avant même que l'empereur ne soit averti. Dans l'après-midi, tout est rentré dans l'ordre, grâce à l'action de la police et des... Voilà. Alors l'affaire a été rondement menée. Quand Bacérès décide sur le champ qu'aura lieu le procès devant une commission militaire, 11 officiers seront déférés devant une cour martiale et fusillés dès le 29 octobre. L'affaire a été rondement menée. Voilà, donc je vous reparlerai de cette conspiration de Mallet parce que il y a eu des événements assez pittoresques. Sa femme s'est déguisée, lui a apporté des vêtements de femme, s'est déguisée en soldat pour entrer dans sa prison, essayer de le faire échapper. Enfin, tout ça, je vous le raconterai la semaine prochaine, mais ce sont des détails. Le grand problème, c'est de savoir comment l'empereur va prendre cette affaire. Et cette incertitude est pénible à vous, Cambacérès, à Lebrun, qui est lui aussi un haut fonctionnaire du Sénat. Napoléon apprend la nouvelle le 6 novembre. Il découvre la tentative et ses suites judiciaires. Son désarroi est profond. Il est profondément éprouvé par les premiers détails qu'il reçoit. Il est blessé jusqu'au fond de l'âme. Comme il fallait s'y attendre, vient ensuite l'emportement. Hein. Comment ont-ils pu céder aussi vite et croire? Bon, il y a à la fois l'humiliation, la colère, mais ce qui lui fait très mal, c'est que personne n'ait songé à son fils. Hein. Vive Napoléon II! Et pour tout le monde, la fin de Napoléon signifiait la fin de l'Empire. Amer, Napoléon confie à Caulaincourt, la nouvelle de ma mort a fait perdre la tête à tout le monde. Le ministère de la guerre qui me vante son dévouement n'a même pas mis ses bottes pour courir aux casernes, faire prêter serment au roi de Rome. Il est vrai que personne n'a opposé le nom du roi de Rome. Interrogé par la suite, Frochot avouera « Ce diable de le roi de Rome, on n'y pense jamais. » En effet, la Révolution avait bien abattu le principe d'une monarchie héréditaire. Et le pouvoir était-il condamné à rester intransmissible? L'empereur avait pourtant mis tant d'énergie à ancrer son régime. Il n'y avait qu'à voir le rôle accordé au Sénat dans cette entreprise, mais la conspiration de Malet fait apparaître que chacun trouve normal, à commencer par les sénateurs, que le Sénat ne laisse pas le pouvoir à un enfant d'un an et demi. Donc voilà, il n'y a pas de transmission héréditaire, Napoléon l'a compris. Nous allons voir les suites de la conspiration de Malet la semaine prochaine et j'espère avoir les documents pour vous dire ce qui s'est passé lorsque le général Malet a essayé de le sauver. Donc, nous allons nous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne écoute de notre chère radio Salve Regina.